à toutes et à tous, vous écoutez Radio Pays des Hauts et RPH Sud, et c'est l'émission Level Up Culture.
Hello.
Salut, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, d'aviation et d'autres surprises. Je suis en compagnie de Clélia et Maëva, et malheureusement, c'est la dernière émission. Après, on sera plus là. Non.
Et oui, dernière émission de l'année. On a fait 4 émissions ensemble avec toi, Nathanaël, et 2 avec toi, je crois, Clélia, c'est
ouais,
ça?
Ouais, 2.
Bon, mais en tout cas, c'est trop chouette de vous avoir. On pense bien sûr à Tom qui devait être avec nous aussi sur cette émission et qui aujourd'hui n'a pas pu venir. Donc voilà, on lui fait de grosses bises et on espère qu'il va apprécier cette émission qui nous a aidé à préparer d'ailleurs.
Ouais.
Donc on pense fort à lui et puis à tous les autres participants qui ont participé à tous ces ateliers pendant l'année. Mmh. Et je suis très contente que vous soyez là tous les deux pour clôturer cette dernière émission de l'année. Ça vous va que je vous fasse un petit sommaire de l'émission? Tu nous en as dit quelques mots dans l'intro. On va commencer par une petite revue de presse. Je suis allée voir Le Petit Quotidien, vous savez, le journal pour les... jeunes enfants, hein, puisque bon, vous êtes au collège, vous, donc maintenant vous êtes un peu plus grand. Mais j'ai trouvé 3 articles et que je voulais vous lire et vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, on va débattre sur une question. Est-ce que vous vous rappelez de la question précisément?
L'intelligence artificielle aide-t-elle vraiment les jeunes à apprendre ou les rend-elle trop dépendants de la technologie?
Donc on va débattre sur ça. Vous pensez que oui, qu'elle les rend plutôt... Enfin, en tout cas, que ça n'aide pas vraiment les jeunes à apprendre d'une bonne façon. Moi, je fais l'avocat du diable, comme on dit, parce que moi, je pense que non, elle est très utile pour apprendre. Donc on va débattre là-dessus. Ensuite, Nathanaël, tu vas nous parler d'aviation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste?
En fait, je crois que, enfin, surtout, je vais vous parler des records. Et un peu au tout début des quelques premiers avions, et planeurs, bien sûr, planeurs, parce que le premier avion, c'était un planeur, pas un avion à moteur.
D'accord. Donc, tout ce qui vole, quoi. Pas
ouais.
Forcément motorisé.
Oui, oui.
Et on terminera, parce que je sais pas pourquoi, vous me l'avez demandé, un quiz code de la route. Mais vous êtes trop jeune pour passer votre permis, là. C'est quoi cette embrouille?
C'est pas moi qui fais, c'est qu'il est comme demandé.
Pour ceux qui conduisent...
Allez, pour ceux qui conduisent,
d'accord.
On va tester un petit peu des questions du code de la route pour s'amuser en fin d'émission.
Et si vous êtes sur la route, écoutez bien.
On espère que si vous êtes sur la route, vous aurez les bonnes réponses, surtout. C'est
oui.
Surtout ça. Allez, alors, 3 articles qui viennent de Mon Petit Quotidien. Du mois de décembre. Alors, le premier que je vous ai sélectionné, ils ont fait une enquête, Mon Petit Quotidien, en demandant aux enfants de répondre à un questionnaire, et notamment sur la phrase « Ce n'est pas de ton âge ». Ils ont demandé si ils ont déjà entendu ça, si on leur a déjà dit ça souvent dans leur vie. Et il se trouve que 8 enfants sur 10... ont répondu que... Enfin, non, quasiment tous les participants ont répondu qu'ils ont déjà entendu cette phrase. Et 8 sur 10 ont dit qu'elle était dite par leurs parents. Donc c'est leurs parents qui leur disaient ça. Et quand ils ont demandé dans quel cadre, ils ont expliqué que c'était par rapport à une série ou un film qui n'était pas adapté à leur âge. Alors du coup, je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà entendu dans votre vie d'enfant « Ce n'est pas de ton âge » Par qui et à qui vous a dit ça? Par rapport à quoi ça a été?
Bah moi, à chaque fois que je veux regarder un film, bah c'est jamais de mon âge et du coup on me dit que c'est pas de mon âge.
Donc c'est aussi par rapport au film, à l'âge des films,
ouais.
Quoi, l'âge conseillé pour visualiser un film. Vas-y.
Ou pour aller à un concert.
C'est vrai?
Mais il y avait trop de monde et c'est pas de ton âge.
Ok, encore quelques années pour aller voir un concert. Et toi, Nathanaël?
Moi, c'est... je m'en souviens pas personnellement, peut-être
okay.
Qu'on me l'a dit.
Ça t'a pas marqué?
Non, je crois qu'une fois, mais ça c'était vraiment exagéré. C'est ma mère, elle m'a dit c'est pas de mon âge parce que je voulais regarder Les Dents de la Mer.
Là, je comprends.
Tu l'as pas vu toi ce film non plus?
J'ai vu le début.
T'as vu des extraits? Alors, c'est quel âge pour regarder Les Dents de la Mer?
Les
c'est
Dents de la
12
Mer.
12 ou 16?
Je sais pas.
Tu sais, Claudia?
C'est 14.
Alors, moi j'ai trouvé les 3. Écoute, interdit au moins de 12 ans, d'autres qui disent 14 ans, effectivement, comme t'as dit, et âge conseillé 16 ans. Bon, je pense que ça dépend de notre sensibilité au...
Je suis hyper sensible.
Voilà, si t'as l'habitude de voir des films d'horreur, je pense que si tu vois ce film, ça va pas trop te choquer. Par contre, si tu es très sensible aux images, ben, ça peut te marquer.
Moi, je suis entre les deux.
Moi, ma mère m'a fait voir le début et j'ai été tellement pris que la nuit, je suis descendue, j'ai allumé l'ordinateur, puis allez, je suis allée sur le site streaming, on l'a trouvé et hop, les dents de la mère, youpi !
Tu sais que là, tout le monde entend ce que tu viens de dire.
Ah, ah. Maman, je t'en supplie, n'écoute pas cette émission.
Je continue avec une deuxième information. Pour la première fois, le bruit de mini-éclairs ont été enregistrés sur Mars. Alors, sur la planète Mars, il y a des tourbillons qui soulèvent des poussières et ces poussières se frottent entre elles et ça fabrique des décharges électriques. Et donc, la lumière créée prend la forme de mini-éclairs. Ils ne mesurent que 1 cm, donc c'est beaucoup plus petit que les éclairs qu'on a sur la Terre. Et les caméras des robots qui sont sur Mars ne sont pas encore capables de photographier ces éclairs. Mais par contre, le micro de Perseverance, le petit robot, a réussi à enregistrer ce bruit. Et donc, ce sont des scientifiques français qui ont entendu ce mini-tonnerre, ce petit claque, la première preuve des mini-éclairs. Voilà, est-ce que vous voulez réagir à cette information ? Vas-y, Nathanaël.
Pour moi, c'est totalement faux parce que dans l'espace, il ne peut pas y avoir de bruit et il n'y a pas de vent dans l'espace.
Là, on n'est pas dans l'espace, sur Mars aussi, du coup.
Mais c'est une planète dans l'espace. Sauf que la Terre, nous, on peut avoir je crois qu'on peut avoir le vent et le bruit et le son.
Mais tout est différent.
Surtout parce qu'en fait, on a une atmosphère. Je crois que sur Mars, il n'y a pas d'atmosphère ou il est trop faible.
Sur Terre, il y a énorme atmosphère, plein de couches.
Il y a sur le site du CNRS, ils disent que sur Mars, il existe 2 vitesses du son, une pour les aigus et une pour les graves. Donc on peut quand même, c'est différent de ce qu'on entend sur la Terre.
Ah j'étais pas au courant de ça, moi.
Et on peut quand même entendre des choses. Après, visiblement, c'est une planète très silencieuse. Là où tu as raison, c'est que c'est une planète très silencieuse, forcément. Mais du coup, il y a quand même eu l'enregistrement de ces petits éclairs. Après, c'est pas des tonnerres comme on a chez nous sur la planète Terre. Hein. Ils font quelques centimètres, hein, donc c'est des éclairs comme ça. Donc ils font des petits bruits.
Ils doivent être mignons.
J'ai dit quoi ? Pour combien de centimètres ?
1 centimètre.
Vous imaginez ?
Oh, mais c'est
une petite étincelle.
Oh, j'espère en avoir un jour comme ça. Si un jour quelqu'un m'empête, je le prends et je lui balance dessus, en fait.
Un mini éclair de Mars. Allez, dernière information un peu plus fun, celle-là. Enfin non, la première. Enfin, celle d'avant était fun, mais un peu moins sérieuse, on va dire. Aux États-Unis, des défenseurs des animaux conseillent aux maîtres de protéger leurs chiens en cas de température glaciale. Par exemple, marcher sur la neige ou sur des produits anti-gel mis sur le sol risque d'abîmer les pattes des chiens. Une solution possible, leur enfiler des chaussons. Cela leur évite aussi de glisser. Autre conseil, les couvrir d'un manteau pour garder leur pelage sec et limiter les effets du froid sur la santé. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on met des pulls et des chaussons aux chiens ?
Je pense qu'en fait, c'est bien pour eux, mais ça doit être quand même un peu ridicule, les pauvres. J'arrive pas, ça doit être trop marrant. Il y a des chiens qui arrivent avec des chaussons, ça vous choque pas ?
C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'en voir en France des chiens habillés. On voit parfois des petits chiens qui sont peut-être plus fragiles, qui ont un petit manteau, mais les chaussons, je crois que j'en ai pas en avoir vu. Vas-y, Clélia.
Moi, j'ai vu un chien avec un déguisement citrouille à Halloween.
Ah, mais ça, c'est autre chose. C'est pour décorer.
T'aurais dû le
décorer le chien.
Transformer en dragon de la terre.
Enfin bref, voilà pour la petite revue de presse. Je vous propose qu'on passe tout de suite
au débat.
Alors, le sujet du débat, l'intelligence artificielle aide-t-elle vraiment les jeunes à apprendre ou les rend-elle trop dépendants de la technologie ? Alors, vous avez des arguments contre, moi j'ai des arguments pour l'intelligence artificielle dans le cadre de l'éducation.
Je tenais à préciser que pour certaines personnes, ce sont des rôles définis pour rendre un sens au débat.
On a cherché des arguments dans le pour et dans le contre, mais ça reflète pas exactement la totalité de ce qu'on pense, vu qu'on est assez mitigés, nous tous, ici.
Oui.
Alors, vas-y, Clélia.
Non,
moi qui commence ?
Oui, c'est le contre.
Ok, alors, vous savez qu'on utilise souvent l'intelligence artificielle pour faire des recherches quand on travaille. Et donc, du coup, utiliser l'IA, ça peut donner des réponses plus précises qu'un moteur de recherche qui va simplement donner le résultat de ce qu'il trouve et pas forcément un résultat personnalisé avec exactement les nuances de la question qu'on peut lui poser. Donc, utiliser l'IA dans le cadre des études, ça peut quand même donner des réponses plus précises qu'un moteur de recherche.
Oui, mais si c'est un étudiant, il réfléchit moins.
Pourquoi il réfléchit moins?
Bah parce qu'il regarde l'IA, il regarde les réponses si c'est un travail d'anglais. Ou en, voilà. Et du coup, bah, il réfléchit pas par lui-même.
Si par exemple, tu as un exercice d'anglais, ben, ça va être à toi d'être intelligent et de pas écrire « donne-moi les réponses », mais plutôt « explique-moi ce que je suis en train d'étudier pour bien comprendre et ensuite être capable de répondre à la réponse, tu vois. » C'est sûr que si tu demandes les réponses, mais c'est pareil avec Google. Si tu vas sur Google et que tu tapes la réponse de ton exercice, tu vas la trouver aussi.
L'intelligence artificielle consomme de l'eau, sachant qu'une phrase de 100 mots est équivalent à une LED allumée pendant une ou deux heures. Non, 12 LED.
Une heure.
T'as pas le chiffre exact?
Non, il me semble qu'on
l'avait trouvé.
Une heure. Je m'en rappelle.
Une LED, donc une phrase de 100 mots.
Une lampe de chevet.
Oui.
Une lampe de chevet.
Donc c'est quoi ton chiffre? Attends, redis-moi.
Pendant une heure.
Une requête 100. De 100 mots écrite sur ChatGPT, admettons. Ça consomme
100 LED grillés.
100 LED qui allument pendant une heure. Et des litres d'eau aussi, je crois. Oui. Là, je joue contre mon corps, mais il me semble que c'est comme si on jetait aussi quelques bouteilles d'eau.
Oui, on coupera sans montage.
Non, bien sûr. Alors, j'avoue que trouver un argument pour ça, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même très problématique là, ce que vous dites là. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut malheureusement pas trop aller contre et que, vu là, le développement que prend l'IA, nous, en tant qu'étudiants ou apprenants ou collégiens, on utilise les outils qu'on nous donne et là, on l'a. Et du coup, on sait que ça consomme beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix, en fait, puisque c'est lancé, les politiques gouvernementales utilisent l'IA, c'est partout, on les a maintenant sur les ordinateurs, etc. Donc, en fait, on peut faire le choix de ne pas l'utiliser, mais malheureusement, je crois que même si je ne l'utilise pas, mon voisin l'utilisera aussi. Donc, pour moi, c'est l'utiliser et après réfléchir là maintenant à ce que vous venez de dire, comment on peut faire pour limiter son impact écologique.
Tu sais que aussi ça enregistre tes passages de discussion sur WhatsApp ou sur Snap.
Oui, mais en même temps, quel site internet où on s'inscrit n'enregistre pas nos données?
Et ça les enregistre, et quand tu vas sur Google et que tu tapes quelque chose, et tu vois direct les choses que tu as tapées.
T'as cherché. Ça utilise les données qu'on a utilisées pour...
Toujours pour
s'en resservir.
Moi, je proposais pour améliorer, pour que les data centers consomment moins, ce serait par exemple faire une semaine sans utiliser l'intelligence artificielle. On bloque tout. Plus de recherche, plus rien, plus de sites internet, plus rien. À part des trucs sur des clés USB, mais plus de sites, plus rien.
Il y a beaucoup d'endroits où internet est vital. En fait, si tu coupes tout... Ça a posé de gros problèmes. Donc après, je sais pas, moi j'ai pas trop de personnes qui, dans mon entourage encore, qui utilisent vraiment l'IA, ou alors ils me le disent pas. Mais vous connaissez des gens qui l'utilisent régulièrement ou pas?
Ma mère.
Elle l'utilise pour quoi?
Pour tu rechercher, sais, un peu ma petite soeur elle est malade, du coup elle recherchait ce que c'était.
Ok, donc pour chercher des informations comme un moteur de recherche, mais plus ciblé quoi. Et toi, Nathanaël, dans ton entourage, il y a des gens qui l'utilisent l'IA beaucoup ou pas?
En fait, tous ceux qui font des recherches sur Internet, dont nous, parce que Internet, c'est l'IA, en fait.
Si tu utilises...
Si on fait des recherches Google, c'est l'IA. Si, Google, c'est l'IA.
Je pense pas, non.
Si.
Parce que Google, ils ont un moteur de recherche IA, mais si tu l'utilises pas, t'es encore sur les moteurs de recherche classiques.
Non, c'est l'IA entier.
C'est une IA, en fait, Google.
L'assistant IA de Google, c'est Gemini. Mais si tu utilises Google, c'est un moteur de recherche. C'est comme si tu vas dans une bibliothèque et que tu tapes un mot-clé sur l'ordinateur de bibliothèque, il va te sortir les livres qui comportent ce mot-clé. Ça, c'est un moteur de recherche là, comme Google, Mozilla, etc. Alors que l'IA, elle peut aller plus loin que juste redonner une information. Elle peut t'aider à réfléchir, à trouver des concepts, etc. Donc, si tu utilises Google, tu n'auras pas les mêmes réponses que si tu utilises l'IA de Google qui est Gemini. Ce ne sera pas la même chose. Google, c'est encore un moteur de recherche classique.
Mais du coup, l'IA, ça pollue énormément puisque c'est 100 bouteilles.
Pourquoi tu reviens là-dessus? J'ai pas d'argument contre ça.
100 bouteilles d'un litre.
Oui, franchement, j'ai pas d'argument là-dessus. Mais tu sais, moi j'ai un autre truc à vous dire aussi. En 2024, il y a une étude américaine qui a été publiée dans le New York Times, hein, qui est un journal qui est très connu. Ils ont fait une étude, en fait, ils ont demandé à un médecin et à ChatGPT de poser un diagnostic médical. Donc, de donner un diagnostic. Et alors, pour les médecins, 7 médecins sur 10 ont donné un bon diagnostic. Et ChatGPT, vous savez combien c'est ? 9 sur 10.
Ah. Oh, et attendez.
C'est des humains qui ont créé l'IA.
Oui.
Ils veulent juste gagner l'argent et c'est des milliardaires qui ont créé l'IA.
Eh ouais.
Ils veulent juste l'argent.
Bah ouais, mais pour l'instant c'est gratuit, donc quand tu l'utilises, t'as l'impression de donner de l'argent à ces milliardaires.
Oui, oui.
Ça donne.
Bah, mais toi personnellement, quand tu l'utilises pour tes recherches, est-ce que t'as l'impression de leur donner de l'argent ?
Ça pollue.
Moi j'ai un autre argument sur l'IA qu'on avait trouvé avec Tom, c'était aussi que c'est quand même l'IA, bon là on sort un peu du côté éducatif, mais c'est que quand même ça permet d'ouvrir de nouveaux métiers du numérique, donc on peut être analyste de données, intégrateur en IA, créateur de logiciels, programmeur, tout ça, ça remplace pas ces métiers là mais au contraire ça leur donne de nouvelles opportunités. Par exemple, alors je vous donne un exemple, si on est développeur web, ben, ça peut nous aider à écrire des lignes de code plus rapidement ou à vérifier s'il n'y a pas d'erreur, etc. Donc ça peut nous aider à travailler plus vite.
Ce que je voulais dire, c'est que ce qui alimente principalement l'IA ou les moteurs de recherche, ben, ils sont souvent payés 20€ du mois. Et s'ils se trompent, ils doivent passer la journée devant des écrans à choisir des photos. Est-ce que ça c'est un chat et ils montrent une photo de lampadaire et non ça n'est pas un, du coup ils doivent dire que non ça n'est pas un, et ben eux ils sont payés 20€ et s'ils se trompent ils doivent donner de l'argent.
Alors où est-ce que tu as vu ça là? C'est quoi tes sources là-dessus là?
C'est des recherches. C'est des recherches d'un ami de ma mère qui est allé dans le pays justement en question.
Et donc il y a des personnes qui sont payées pour étudier si ça correspond.
Oui. Et c'est vraiment horrible en fait.
Ça me fait penser à, pareil, on sort du sujet, mais il y a aussi ça sur les réseaux sociaux, des personnes qui sont chargées de vérifier que ce qui est posté sur les réseaux sociaux puisse être tout public. Et du coup, il y a des personnes qui voient des images horribles toute la journée et qui font la modération, qui suppriment des vidéos, des images qui ne doivent pas aller sur les réseaux sociaux. Et ça me fait penser à ce métier-là qui doit être très, très dur et je crois que c'est très mal payé aussi.
Je change de sujet aussi. Il y a de moins en moins de gens qui travaillent parce que c'est les robots de l'IA qui remplacent.
Alors ça, je crois que c'est pas encore... Est-ce que tu peux me citer un métier qui a été complètement remplacé par l'IA ?
Par exemple, aux États-Unis, bah, dans une ville, je me souviens plus laquelle, mais il y a Elon Musk qui a mis en route des taxis automatiques.
Ouais, enfin, on n'y est pas encore. Hein.
Si, il marche vraiment. Et ça commence à se répandre en plus, je crois.
Les voitures sans conducteur, pour l'instant, on n'est pas prêt d'y être. On le verra tout à l'heure avec le code de la route, mais... en termes d'engagement, de responsabilité et tout ça, qui est responsable quand il y a un accident, comment ça fonctionne et tout ça, je pense que c'est pas prêt, enfin c'est pas demain.
Je l'ai vu aussi, qu'il y a les caméras devant, en fait sur le pare-brise, il y a les caméras qui filment
oui, oui.
La route et qui filment.
Mais c'est pas parce qu'il y a des caméras qu'il peut pas y avoir d'accident, tu vois. Et...
Je joue contre mon camp, oui, aussi. Bah, et comment ils vont prendre au moins une heure s'il y a un accident pour venir?
Ouais, non, franchement, je vois pas comment là, demain, ça peut être. Mise en place chez
demain, il y a un taxi devant la bibliothèque qui vient chercher les gens.
Qui te ramène chez toi, tranquille. Vas-y, Nathalie.
Mais aussi, c'est dans le projet déjà que bah, l'IA remplace certains métiers dans l'aviation.
Là, si on mélange tout, bon, on a cherché des arguments contre, on a cherché des arguments pour, concrètement.
Il y a l'IA dans les calculatrices.
Oh, mais oui, c'est vrai. Mais l'IA, c'est tout ce qui... Oh.
Si on fait une conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Mélanger les pour et les contre, là. Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Ce serait quoi?
Bah, on pourrait dire 45%.
J'aime pas les conclusions.
Pas. 45% pour et 55% contre.
Mais non, mais sur notre sujet de est-ce que ça nous aide à travailler ou est-ce que ça nous rend dépendants?
Bah, justement.
Ça nous rend dépendants.
Tu penses, toi, quand même?
Ça nous rend dépendants, mais ça nous aide.
Ouais. Ça peut nous aider sur certaines choses, mais il y a beaucoup plus de trucs bêtes sur l'IA que de choses bien intelligentes.
Ok, c'est pas encore prêt à nous aider vraiment pour vous. Ok, bah écoutez, moi j'ai pas d'autres conclusions, hein. Je suis un peu comme vous, je sais pas trop quoi en penser encore, j'ai l'impression qu'on l'utilise pour tout et pour rien, et que du coup, effectivement, c'est pas très jojo au niveau environnemental. Moi c'est plutôt ça qui me pose question, de l'utiliser comme un moteur de recherche. On va remercier Tom aussi qui nous a aidé à écrire les arguments, notamment ceux que j'ai cités tout à l'heure. On va faire une petite pause et on revient tout de suite.
Motherfuckers always spike with pain.
Et maintenant, Nathanaël, tu peux nous parler d'aviation, s'il te plaît ?
Moi, je vais vous parler surtout en premier de l'histoire de l'aviation. Le premier modèle volant, bien sûr, je dis volant parce qu'il n'a pas eu de moteur, c'était un planeur, a été le Cocher, inventé par le père de l'aviation, Sir George Cayley, 1853. En 1903, les frères Wright créent le premier avion motorisé, le Wright Flyer, je veux dire. Mais après, il y aura le Wright Flyer 2 et 3. Maintenant, on va parler des records. Déjà, le X-43A fut l'avion le plus rapide du monde en ayant atteint la vitesse de Mach 9,8, soit 11 263 km/h. L'avion le plus lourd du monde est l'Antonov An-225 Mriya. Il pèse sans chargement 285 000 kg. Et le poids maximal au décollage est 640 tonnes. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Malheureusement, pendant la guerre de l'Ukraine et de la Russie, il a été détruit. Il y en avait un en construction, mais le projet a été abandonné. L'avion le plus long est le Boeing 747-8 avec ses 76,3 mètres de longueur. Et maintenant, l'avion le plus cher du monde, avec ses 10 à 15 milliards, et c'est le B2 Spirit.
Est-ce que tu peux le décrire? Il ressemble à quoi?
Sur la forme des ailes, on dirait plus des rectangles qui s'emboîtent. On dirait... je saurais pas comment dire. Il a...
C'est difficile à décrire, hein,
c'est
franchement.
C'est trop difficile.
Oui, oui. Ouais. Il a cherché sur Internet B-2 Spirit.
On dirait qu'il a un nez énorme, quoi, oui. Descendant. Il est assez, il a des courbes assez carrées.
On dirait qu'il a plusieurs étages.
Oui, mais je
des
crois...
Des étages, il est...
Non, c'est très dur à décrire.
Je crois qu'il est énorme sur... normalement, ce Tyrell, il doit être énorme.
Par
des
contre,
mètres,
il est exclusivement...
Combien de mètres, ouais.
Il est exclusivement utilisé pour, pour l'armée, quoi.
Ouais, pour l'armée.
Pas français,
il est utilisé pour l'armée.
Ouais, c'est pas un avion pour voyager. C'est vraiment un avion pour lâcher des bombes, quoi.
Oui.
Petite question, Nathanaël, pourquoi ça te plaît autant, l'aviation, toi?
Bah déjà, c'est quand même incroyable, ça paraît banal, mais c'est quand même incroyable de pouvoir voler dans les cieux, rien qu'avec des avions. En haut, on peut se sentir libre, on est en haut,
t'as
une liberté,
tu
dois quand même respecter quelques codes si tu veux pas mourir, mais quand même, tu es libre, c'est toi qui décides d'où,
j'aime bien la précision.
Où tu veux aller. ULM, ah oui, les ULM. Et tu te sens libre dedans, tu t'as même pas besoin d'aéroport avec ça, t'as juste besoin d'une longue route ou si t'es équipé de flotteurs d'un lac et tu décolles, tu vas où tu veux, t'as juste besoin d'une permission pour pouvoir voler.
Est-ce que du coup t'as déjà été dans le ciel?
Non, mais j'ai hâte en fait.
T'aimerais trop, ouais.
Ouais, j'ai hâte. Déjà,
c'est ton rêve.
Oui, en troisième, je passerai déjà pas la SSR, c'est un club d'aéromodélisme et dans certains collèges, ils font un truc, ça s'appelle comment?
C'est à partir de 14 ans?
Non, c'est à partir de 13 ans. Oui, oui.
Et ensuite, c'est génial. Mais t'as quel âge?
Mais j'ai 13 ans. Mais sauf que cette année, ils ne le faisaient pas. Mais du coup, l'année prochaine, je le ferai. Et puis quand je pourrai, je passerai mon permis planeur, mon baptême de l'air.
Eh bien, ça a l'air très intéressant. Si vous nous écoutez, vous connaissez Nathanaël, offrez-lui un stage, un baptême dans les airs. Tu peux commencer à faire peut-être de l'ULM ou du parapente en duo, non? C'est à partir de quel âge?
Non, on a besoin d'un permis.
Oui, non, mais si t'es derrière quelqu'un?
Non, moi j'y... Et en plus, les ULM, je crois que c'est une place, à part les gros ULM qui ressemblent à des avions. Alors que c'est des...
Et le parapente?
De quoi?
Il y a des ULM, je te jure, c'est des avions de touristes, carrément.
Mais tu peux faire du parapente, par contre.
Le parapente, j'ai pas encore très envie d'essayer. J'ai encore voulu... Je veux encore rester dans mon club d'aéromodélisme.
Au-dessus de l'eau, là. Oh, le rêve.
Ok. Bon, merci pour cette...
Au-dessus de l'eau, tu t'atterris dans l'eau.
Allez, on va s'arrêter là pour le sujet de l'aviation. On termine l'émission avec un petit quiz code de la route,
quiz,
mes amis.
Yeah.
Vous savez qu'il existe des voitures manuelles et des voitures automatiques.
Oui.
Sur une voiture manuelle, quelle pédale correspond à l'embrayage? Alors, il y a trois pédales, je vous l'ai dit.
Oui.
Celle de gauche, celle centrale et celle de droite.
Oui, celle de droite.
Oui, non, c'est...
Celle de droite, je crois.
La grande.
Donc, celle de droite.
J'ai conduit. Oui.
Et non. C'est la pédale de gauche.
Quoi?
Celle du milieu et celle de droite. C'est le frein et l'accélérateur.
La dernière fois, j'ai conduit au lac de Salagouche sur un parking et du coup...
Allez, question suivante. Alors imaginez, vous êtes sur une route, une double voie.
Ah oui, ok.
Vous êtes à droite, il y a une voiture à gauche qui est en train de vous doubler. Enfin, qui est là. Et vous roulez plus vite qu'elle. Est-ce que vous pouvez continuer et du coup la doubler par la droite? Ou vous devez attendre qu'elle se rabatte et ensuite la doubler plus tard? Vous arrivez à une intersection. Vous avez une bonne visibilité, donc vous voyez donc un croisement.
Ouais.
Regardez, vous voyez un peu l'image. Vous avez une bonne visibilité, vous voyez à gauche, vous voyez à droite,
ouais.
Y a pas de
on
voiture.
On voit derrière avec le truc.
On voit derrière avec le rétro, il n'y a personne. Est-ce que vous avez un cédé de passage? Vous connaissez ce panneau, ce n'est pas un stop.
Oui.
Est-ce que vous devez marquer un temps d'arrêt?
Non. On n'a pas marqué.
Tu laisses juste la personne... passer.
Là, il n'y a personne à laisser passer. Hein.
Ouais, bah...
Et oui, ce n'est pas un stop, donc... Si... Oh là, il y a le bruit qui... Yes. Ça veut dire que vous avez juste.
On a juste.
S'il si y a personne qui passe, ben, vous pouvez faire... vous voyez bien, vous pouvez y aller, c'est un CD de passage, donc c'est OK. Alors, nous avons une photo où il y a un marquage au sol
c'est
qui est jaune. Et là, c'est un marquage temporaire durant les travaux. Enfin, il nous demande si c'est un marquage temporaire durant les travaux.
Non, non, c'est un truc de bus.
Attends, moi, je dirais quoi c'est un marquage temporaire par les pour
bah
les
oui,
travaux.
Y a les... Oui, parce, qu'il y a parce les que plots. Normalement, les trucs de bus, c'est plus...
Et il y a les plots.
Ouais,
y
a... mais c'est
et
ce que j'allais dire.
Il n'y a pas d'arrêt de bus.
Y a... Ouais, il n'y a pas d'arrêt de bus et normalement, les traits, ça ne fait pas triangle comme ça, là. Ouais, ouais,
donc
c'est un marquage de...
Yeah, de travaux.
Vrai.
Oh et faux, c'était bien des stationnements dédiés aux bus.
Je c'était te pas.
Eh ouais, chaturné.
Allez, question suivante. Nous avons un panneau. Je vais le décrire. C'est un triangle avec une locomotive dessus. Et on nous demande si ce panneau indique la présence d'un passage à niveau. Alors, il est bien sûr rouge
oui,
et blanc.
Oui.
Ça veut
oui,
dire
oui.
qu'il faut laisser passer le truc. Gros,
mais non, t'as... mais le pas. Non, ça veut dire qu'il y a le train qui va passer et qu'il y a les barrières qui vont s'abaisser. C'est pour nous prévenir de ne pas aller trop vite dans la zone.
Et bien sûr, évidemment.
On
donc,
a
ça
le
indique
bruit.
La proximité
normal.
D'un passage à niveau. Alors, c'est un passage à niveau sans barrière.
Ah,
d'accord donc
mais
ça
oui.
veut dire que...
Il y a les barrières ah. que vers cette là.
Allez, question suivante. Là, on est presque à la fin. Quelle est la forme d'un panneau annonçant des feux tricolores? Est-ce qu'il est triangle, rond, octogone ou carré?
Il est rectangle.
Je dirais carré, mais carré en mode comme ça, losange. Bon. Carré en mode losange.
Attends, les feux tricolores, c'est les feux rouges.
Ouais. Triangle, rond, octogone ou carré?
Octogone.
Ok, octogone.
Octogone et carré, et c'était triangle. Oh c'est celui-ci, regardez.
Ah, je croyais que c'était le feu rouge. Feu rouge.
Question suivante.
Ah non, je suis trop bête.
C'est le panneau qui annonce le feu rouge, mais pas le feu rouge en lui-même.
Ah.
Donc c'était un triangle. Triangle avec du rouge. Les panneaux à chevrons nécessitent un ralentissement du conducteur. Vrai ou faux? Alors, panneaux à chevrons sont des panneaux qui sont bleus et blancs et qui donc sont sur le côté d'une route. Et là, ce que nous avons sur l'exemple, il présente deux flèches.
Oui, mais ça, c'est...
Moi, je dirais faux. Faux,
ouais,
et faux.
Donc, il ne nécessite
et
pas
faux.
De ralentir.
Et faux.
Et toi, Claire?
Je peux dire pourquoi?
Faux. Si tu veux.
Parce que c'est pour la nuit.
Ah oui.
Pour qu'on voit quand il y a un virage. Quand il y a un virage.
Et si, malheureusement, vous avez faux, ils annoncent bien un...
Bah, désolé, mais celui qui a créé ça, c'est...
Alors, c'est quoi ces panneaux? C'est pour annoncer qu'il va y avoir un virage dangereux.
Mais oui,
donc on
c'est
est
que
forcément obligé de ralentir du coup. C'est, ça inclut
ah
qu'il faut
ouais,
ralentir.
En fait,
on va pas arriver
ben non,
à balle.
C'est vrai
alors
et
qu'il
faux.
Y a un virage.
Ouais, en fait, c'est vrai et faux. On a raison et on a tort en même temps.
Non, c'est vrai.
C'est vrai et faux.
Allez, on fait la question bonus, la toute dernière pour faire plaisir à Nathanaël. Nous avons une balise sur une photo. Donc, il s'agit d'une balise, hein, je ne sais pas comment expliquer, bleu et blanche, alternant le bleu et le blanc. Est-ce que ça signifie un passage piéton, une zone à vitesse limitée, un obstacle ou une intersection?
Moi, je dirais la B.
Donc, une zone à vitesse limitée.
Yes.
Bah, comme Nathanaël.
Allez, hey, une zone à vitesse limitée.
C'est pas ça.
Et
voilà.
C'est un obstacle... Donc c'est un obstacle, par exemple, un pont qui dépasse légèrement ou quelque chose voilà, qui peut être dangereux.
Ah mais oui
aussi. Bon, bah, je vous donne pas votre code de la route tout de suite. Hein.
Merci, hein, c'est pas gentil.
Ouais, mais moi je le prends bien parce que j'ai pas trop envie de conduire alors que je connais pas bien le code de la route.
C'est en quelques années que vous allez pouvoir commencer à faire le code de la route. Bon, bah, on arrive à la fin de cette émission, Nathanaël.
En tout cas, je vous souhaite de bonnes vies, une bonne santé, un bon nouvel an. Et puis surtout, prenez soin de vous les uns et les autres. Salut et adieu la compagnie!
Salut, merci Nathanaël, merci Clélia.
Salut!
Je roule toute seule dans ma voiture. Les arbres défilent à toute allure. Je tiens le volant serré dans mes doigts et c'est toi que je tiens dans mes bras. Car par la pensée tu es là. Je roule toute seule dans ma voiture.
Cette émission a été réalisée en partenariat avec la mairie de Clermont-Lérault grâce au soutien financier de l'ANCT, de la DRAC Occitanie, du préfet de l'Hérault, de la DRAGES Occitanie, du programme associatif de l'Hérault et de la CAF de l'Hérault dans le cadre du projet Quartier 2030 de la ville de Clermont-Lérault.